Bonjour à tous. Ça faisait quelques temps que je n'étais pas venu jusqu'ici. Voilà, en tout cas, je me réjouis de ce que le Seigneur a peut-être ce matin à vous dire. En tout cas, c'est sa parole qui veut parler. Comme on dit souvent, quand on est ici, nous on a des obstacles. Voilà, on essaye d'être le plus petit obstacle possible à ce que le Seigneur peut vous dire, et voilà, que le Seigneur puisse bénir sa parole. Personnellement, je prie que Dieu fasse grandir ma foi depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, je crois que Philippe a parlé de foi il y a quelques temps. Mais personnellement, c'est une prière que je fais à Dieu depuis plusieurs années, et je vous confesse en toute humilité que je ne comprends pas toujours les chemins par lesquels Dieu me fait passer. C'est pourquoi j'ai choisi d'étudier la foi d'un homme qui a été qualifié par Jésus de foi exceptionnelle en Israël. Cet homme est centurion romain, et nous allons lire son histoire dans Matthieu 8, à partir du verset 5, et nous allons faire référence aussi au passage parallèle qui est dans Luc 7, pendant le message. Et d'ailleurs, Mathieu Gangloff, la semaine dernière, a parlé lors de son survol de la Bible de ce centurion. Alors juste avant de lire, un petit élément de contexte biblique. Donc Jésus, donc on est Matthieu 8, donc avant Matthieu 8, il y a Matthieu 7, jusque-là vous me suivez, ça va. Et avant ça, il y a 6 également aussi, et 5. Et il y a surtout, dans ces chapitres-là, le sermon sur la montagne. Et à la fin du sermon sur la montagne, on voit ça au verset 28 et 29 du chapitre 7, que les gens sont frappés par l'autorité de Jésus. Et au début du chapitre 8, juste avant notre lecture, Jésus va guérir un lépreux en le touchant, un lépreux qui avait fait appel à la volonté de Jésus pour sa guérison. Et nous nous retrouvons, Matthieu 8, au verset 5. Alors que Jésus entrait dans Capernaum, un officier romain l'aborda et le supplia en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, pars, et il part. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Fin de la parole de Dieu, de la lecture de la parole de Dieu. Alors, après avoir fait un contexte biblique, je vous propose juste un petit contexte géographique. On est à Capernaum. Capernaum, c'est une ville importante de Galilée au niveau commercial. Elle est située sur la route du commerce reliant l'Égypte à la Syrie, les deux grandes puissances de l'époque. Elle dispose d'un bureau de douane, dont Matthieu, qui devient évangéliste par la suite, est le collecteur. Et elle dispose aussi donc d'une garnison romaine, peut-être pour sécuriser le business, il y a des chances, qui est commandée par un centurion. Peut-être, et ça c'est ma supposition, mon hypothèse, peut-être que c'est celui de notre histoire. C'est également un port de pêche situé donc sur le lac de Tibériade et c'est aussi une ville frontière. C'est donc un lieu de passage et de brassage. À Capernaum, il y a un sacré bazar, d'où l'expression « quel Capernaum ». Expression que ma mère employait parfois concernant ma chambre. Mais bref. Ce melting pot lui vaut en tout cas d'être méprisé par les juifs pieux de Jérusalem. Mais Jésus choisit de résider dans cette Galilée des nations. Ça va devenir son premier quartier général de ministère. Et il choisit de résider là, dans cette ville, rejetée et humiliée, dans cette périphérie à mauvaise réputation. Il vient apporter le réconfort et la consolation à tous ceux qui voudront croire, quelle que soit leur origine, à ses paroles. D'ailleurs, Capernaum, en hébreu, signifie le village de la consolation ou de la compassion. Je vous propose que l'on puisse dérouler le plan de notre texte pour en tirer quelques enseignements, puis nous aborderons deux applications. Dans ce texte, on voit, alors je ne sais pas ce que, quand on le lit comme ça, s'il y a quelque chose qui vous choque, mais si on prend le temps de réfléchir, on voit qu'un officier romain vient supplier Jésus de guérir son serviteur. Si on prend un peu de recul et qu'on considère qu'un centurion romain est à la tête environ entre 60 et 80 légionnaires, moi qui viens de faire quelques études de management, ça fait une grosse équipe à gérer au quotidien quand même. Il a du boulot. Mais pourquoi l'officier romain principal de la ville de Capernaum supplie Jésus ? Pourquoi est-ce qu'il ne réquisitionne pas Jésus, comme tout bon oppresseur de l'époque aurait fait dans cette situation ? Pourquoi aussi s'intéresse-t-il au sort de l'un de ses esclaves ? Il en a bien d'autres, j'imagine. Nous avons néanmoins affaire à un centurion bienveillant et à l'écoute de ses administrés, ce qui est très paradoxal. Et on voit ça de différentes manières. Premièrement, il sait précisément ce qu'il se passe dans la vie de son serviteur. Est-ce qu'on lui a dit ? Est-ce qu'il est allé au chevet de son serviteur ? Deuxièmement, on peut aussi s'interroger comment il connaît Jésus ? On est tout au début du ministère de Jésus. En Luc 7, au verset 3, il est dit « Il entendit parler de Jésus. » Par qui ? On ne sait pas. Par son serviteur ? Peut-être qu'il le connaissait ? Peut-être un disciple ayant entendu le sermon sur la montagne ? En tout cas, ce centurion est très bien informé, ce qui révèle chez lui un intérêt à minima pour le peuple juif et ses pratiques religieuses, mais par extension aussi un intérêt pour le Dieu des Juifs. La réponse de Jésus, « J'irai et je le guérirai. » Top. Qui ne rêve pas d'une réponse pareille à ses prières ? Et si le texte s'était arrêté là, je pense que cela aurait été déjà un encouragement pour chacun d'entre nous. Mais le texte continue. Et le but ici de l'évangéliste et par son intermédiaire est de nous montrer autre chose. Et tout d'abord, le texte va nous montrer l'état d'esprit du centurion. Et j'aimerais faire quatre observations. La première, c'est que le centurion va dire « Je ne suis pas digne ». Est-ce qu'il parle de pureté rituelle ? Lui qui connaît, qui s'est renseigné sur les lois juives, et par respect des juifs et donc de Jésus, est au courant qu'un païen ne peut pas être en relation avec un juif ? Peut-être. Peut-être aussi parle-t-il là de pureté spirituelle. Et qu'il sait qui il est. Et que malgré son mérite, malgré son statut social, il sait que Jésus est au-dessus de lui. Il est l'exemple même du début du sermon sur la montagne, Matthieu 5, verset 3, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Deuxième observation, il va dire « Mais, dis seulement un mot. » Ce que je trouve remarquable chez lui, c'est qu'il ne s'arrête pas à son indignité. Il va dire « mais ». C'est le « mais » qui nous rappelle que notre histoire ne s'arrête pas à notre indignité. Ce que nous sommes, ou ce que nous faisons, ou ce que nous étions. Mais qu'il y a toujours une solution possible quand on vient à Jésus. Avec Jésus, tout redevient possible. Troisième observation, dis seulement un mot. Le centurion reconnaît l'autorité et la puissance de Jésus sur le corps, sur les maladies et sur la création dans son ensemble. Quelle audace de foi pour un païen! Le fait qu'il dise « dis seulement » et qu'il ait confiance, qu'il ait cette confiance aveugle en disant « dis seulement un mot » nous renvoie aussi à d'autres textes et en particulier en Jean 1 sur la parole créatrice de Jésus. Un autre aspect de cette foi audacieuse du centurion est qu'il anticipe une guérison à distance. Ce n'est pas arrivé souvent, et juste avant, ce n'est pas encore arrivé. En tout cas dans Matthieu. Le lépreux a été touché juste avant. Mais il a compris que le procédé n'avait pas d'importance, mais que la personne de Jésus était toute suffisante. Pour nous aussi, nous avons besoin de nous rappeler que Jésus est pleinement suffisant pour notre salut, et pour notre vie de tous les jours, et pour notre vie future. Quatrième observation, le centurion va se référer à sa propre expérience, à son vécu dans l'armée. C'est l'exemple, il prend l'exemple de la chaîne de commandement dans l'armée. Lui est soumis à des supérieurs qui donnent des ordres, qui lui-même donne des ordres, à ses subalternes. C'est la logique même de l'armée. L'officier est soumis à l'état-major et à des hommes qui lui sont soumis. Ainsi, l'obéissance à l'autorité est la clé de la réussite d'une armée. Et d'ailleurs, c'est le meilleur, voire le seul moyen de gagner des batailles. Sinon, si un part quand il faut rester et si l'autre reste quand il faut partir, c'est un vrai Capharnaüm. Si on pousse l'image, on peut considérer Jésus comme le général parfait, qui sait mieux, qui a les objectifs finaux, qui a le plan de bataille, qui connaît les ennemis, qui a toujours été victorieux. On peut lui faire confiance pour chacun de nos choix et on peut obéir aux ordres qu'il nous donne dans sa parole. Jean 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Si on continue le texte, Jésus va juger, entre guillemets, va donner deux jugements dans la suite du texte, le premier sur la foi du centurion et le deuxième sur la foi en Israël. Concernant la foi du centurion, il va dire « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Je suis allé chercher des éléments de compréhension dans le livre de Alain Nisus, Pour une foi réfléchie, qui met en avant plusieurs aspects de la foi. Tout d'abord, le mot foi en hébreu, c'est aman. C'est la même racine que le mot amen, que nous disons à la fin de chacune de nos prières. Et ce mot aman peut aussi être traduit par confiance, fidélité. C'est quelque chose de sûr, c'est quelque chose de stable. Saint Augustin, le théologien du IVe siècle, distinguait deux formes de foi. La foi savoir, c'est-à-dire la somme de nos croyances, qui est illustrée dans ce verset de Romains 10 au verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Tout ce qu'on apprend dans la parole de Dieu vient alimenter notre foi savoir. Mais il y a aussi une autre forme de foi, c'est la foi confiance. C'est l'adhésion du cœur, c'est l'abandon total, c'est le lâcher prise à Dieu, je précise. On parle beaucoup de lâcher prise, mais la foi, c'est le lâcher prise à Dieu. C'est cette foi semblable à la foi du petit enfant, pleine de fraîcheur et d'émerveillement, pleine de reconnaissance. Cette foi confiance grandit lorsque nous vérifions la réalité des promesses de Dieu pour nous par nos expériences. Si on prend une image, cette foi confiance, c'est comme marcher sur un pont de papier en croyant qu'après les premiers pas, il se transformera en pont de pierre. On retrouve cette notion dans la définition de la foi de Hébreux 11 au verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. De la foi savoir et la foi confiance, et de la foi confiance, nous passons ensuite à une autre étape de foi qui est la foi en acte. Et ainsi, la foi ne touche pas seulement notre raison ou nos sentiments, mais aussi notre volonté et nos actes concrets. La foi en acte, c'est la capacité de pardonner comme Dieu nous a pardonné. C'est, comme nous le rappelle Jacques, nous soucier de notre prochain, répondre à ses besoins. C'est une foi mature, une foi qui grandit et qui porte du fruit. Comme c'est le cas pour le centurion, qui prend soin de son serviteur. C'est donc la foi connectée aux œuvres de Jacques, car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Je vous ai donné de la théorie. Si j'essaie de faire un schéma de ce mécanisme de la foi en trois dimensions et de l'appliquer à notre cher centurion. Donc on a dans un premier temps cette foi savoir, d'ailleurs qui dépasse même du cadre. Donc c'est la foi savoir. Et si on l'applique à notre centurion, on se rend compte que effectivement, on a noté tout à l'heure que le centurion sait qui il est. Selon les Juifs, il mérite d'être exaucé. On voit dans le passage de Luc que c'est lui qui a construit la synagogue, et pour les Juifs, il mérite d'être exaucé. Mais lui sait que cela ne suffit pas, qu'il a besoin de la grâce de Jésus. Et c'est intéressant de constater que la transformation intérieure de cœur du centurion est déjà en marche. Lui, le représentant de l'oppresseur, est humble et bienveillant envers son serviteur et la communauté. Le centurion sait aussi qui est Jésus. Pour lui, c'est clair, c'est le Fils de Dieu qui a autorité sur les corps, les maladies et la création. Et on voit Jésus ici, une nouvelle fois, quant à lui, qui franchit toutes les barrières. Il franchit les barrières culturelles, il va honorer un païen et envahisseur, et rituel. Il est prêt à aller chez un païen pour faire du bien. Jésus ne s'arrête pas à qui nous sommes aujourd'hui, mais regarde à la sincérité de nos cœurs. Ensuite, si on applique la foi confiance, on voit que le centurion choisit de se confier en plus grand que lui. En plus grand que lui et en plus grand que César. Il va appeler Jésus par deux fois Seigneur. Le fait d'appeler Jésus Seigneur a été un motif de persécution dans la suite de l'Église, et qu'un centurion romain représentant de Rome appelle par deux fois Jésus Seigneur montre qu'il reconnaît l'autorité suprême de Jésus. Il choisit de se confier en plus grand que lui, pour lui, mais aussi pour son serviteur, qu'il n'a pas réussi à soulager par lui-même, par ses moyens, par son influence. Le centurion a compris que Jésus pouvait faire ce que lui ne pouvait pas. Éphésiens 3, « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, de l'époque du centurion romain jusqu'à maintenant, au siècle des siècles. Amen. » Une fois qu'on a la foi savoir et la foi confiance, cela nous emmène à la foi en acte. Et ce qui est intéressant, c'est que la foi en acte vient nourrir ma foi savoir, puisque je découvre encore plus qui est Dieu. Et du coup, j'alimente ma confiance. Et c'est un cercle vertueux. Le deuxième jugement qui est apporté ici, c'est un jugement assez dur, mais qui est le jugement que la Bible nous parle. La foi en Jésus est une question sérieuse, puisque c'est une question de vie éternelle. En effet, le salut est une question de foi, et ce texte nous rappelle de ne pas négliger et de profiter de ce temps que nous avons ici-bas pour ouvrir la porte au Seigneur dans nos vies, comme le centurion a pu le faire. Peut-être ce matin, tu n'as pas encore saisi cette opportunité de saisir le salut offert par Jésus à la croix. Et je t'invite à le faire, dans le secret de ton cœur. Si, comme le centurion, tu te sens indigne et incapable, viens à Jésus. Dis-le-lui. Lui seul pourra te guérir et te renouveler pour vivre une nouvelle vie à ses côtés qui commence ici-bas et qui va finir au ciel. Cette vie au ciel et cette vie ici-bas avec Jésus va t'ouvrir les portes d'une destinée éternelle, non pas dans les ténèbres, les pleurs et les grincements de dents, mais dans la lumière, la joie et dans la paix profonde. Jean 5, verset 24, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. » La foi reste un chemin long et parfois, souvent, escarpé, dans lequel on choisit de croire. Augustin, encore lui, disait en latin, excusez mon accent, je n'ai pas pratiqué depuis un moment, « Crede ut intelligas », « crois pour comprendre ». Crede, credo, je crois, c'est le crédit. c'est le crédit accordé à quelque chose ou à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on donne crédit à Dieu dans notre foi. On commence par croire quelque chose qu'on comprend petit à petit. Jésus nous incite à chercher, mais il nous promet qu'en faisant ce pas de foi, nous verrons et nous trouverons. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Ainsi, nous pouvons porter à Jésus un crédit illimité. Avant d'aborder la fin de notre texte, j'aimerais faire une remarque, alors sur la fin de notre texte d'ailleurs, quand Jésus va dire « Sois traité conformément à ta foi ». Est-ce que cela veut dire que quand on n'est pas guéri, c'est toujours un problème de foi ? La réponse est non. Et on voit cela avec Paul et son écharde en 2 Corinthiens 12, verset 7, que Dieu a laissé perdurer. On voit parfois aussi que la guérison ou l'exaucement, si on prend la réponse aux prières d'une manière générale, que la guérison ou l'exaucement n'est pas immédiat et peut être décalé, comme pour Job qui a été éprouvé pour un temps, puis restauré. Ce texte nous encourage néanmoins à être audacieux et à prier avec foi dans l'exaucement. Mais parfois, la non-guérison est aussi une occasion de faire confiance à Dieu, lui le général parfait, sachant que son objectif est avant tout de guérir notre cœur en faisant grandir notre foi. Son objectif est avant tout de guérir notre cœur en faisant grandir notre foi. La finalité, le verset 13. Le serviteur est guéri à distance. CQFD. J'aimerais souligner aussi que la foi du centurion n'arrive pas par hasard, mais c'est l'œuvre de Dieu qui grandit dans sa vie. Et s'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est cette œuvre de Dieu qui grandit dans sa vie. On ne veut pas prendre le centurion comme un exemple, mais on veut voir l'action de Dieu dans la vie de ce centurion et les fruits que cela porte. Pour conclure, deux applications. La première, quel mot ai-je besoin d'entendre de la part de Jésus ce matin ? Quel mot ai-je besoin d'entendre de la part de Jésus ce matin ? Comme le centurion était en attente d'un mot de Jésus et d'une prise d'autorité de sa part sur la santé de son serviteur, nous pouvons confier à Jésus le Capharnaüm que sont parfois nos vies. Nos peurs, nos doutes, nos projets, nos enfants, etc. Afin que lui, le bon berger et général parfait, en prenne soin et débloque les situations. Osons demander à Jésus et osons lui faire confiance. Osons demander à Jésus et osons lui faire confiance. La deuxième application que je vous propose, c'est de rentrer ou de continuer à être et à perdurer dans ce cercle vertueux de cette foi en trois dimensions. De pratiquer la foi savoir et la foi confiance pour qui donne la foi en acte, qui nourrit ma foi savoir et ma foi confiance qui produit des actes. Qui nourrit ma foi savoir et ma foi confiance. Encore une fois, Florence. En conclusion, je nous laisserai une dernière formule mathématique qui est une citation de John Knox, un lointain pays qu'on connaît peu, qui dit « Un homme avec Dieu est toujours dans la majorité. » Et je paraphraserai « Un homme ou une femme qui fait confiance à Dieu est toujours dans la majorité. » Prions. Père Céleste, ce matin, tu nous rappelles que tu es digne de confiance. Si ce centurion romain s'est confié en toi pour la guérison de son serviteur, Seigneur, nous pouvons nous confier en toi pour notre entourage, mais aussi pour nos vies, pour ce qui nous est difficile, ce qui nous dépasse. Seigneur, merci parce que tu es au-dessus de tout. Merci aussi parce que dans ta parole, on peut te connaître et apprendre toujours plus à te faire confiance. Seigneur, permets-nous de pratiquer, permets-nous de oser te faire confiance, de oser aussi te demander pour nous et pour les autres, et de nous confier dans tes réponses, qui seront parfois décalées ou qui seront parfois différentes de ce qu'on demande. Mais Seigneur, permets-nous de continuer à être à ton écoute et d'avoir le courage d'entendre tes réponses et de pratiquer. En ton nom. Amen.